Donc notre panel sur la sécurité mondiale, au début du forum, il y avait donc une séance sur le contexte sécuritaire et donc en passant en revue un certain nombre d'années où nous avons constaté l'émergence de deux tendances rapides et de façon spectaculaire. Première tendance vers une fragmentation accrue, perte de confiance, de cohésion sociale de nombreuses sociétés incapables de traiter correctement la gouvernance, de maintenir l'ordre politique, un sentiment d'être dans le même bateau, ce qui, bien sûr, arrive à un certain nombre de conséquences, mais dans la version la plus extrême, la montée d'un extrémisme violent et la possibilité aux uns et aux autres de profiter de cette fragilité. Autre tendance qui est étroitement liée, celle entre les puissances clés de la planète, une concurrence accrue sur l'influence. Parfois, cette concurrence rejoint les domaines de la fragilité, ainsi qu'on constate des conflits qui sont locaux, nationaux, régionaux et globaux en même temps, reliés les uns aux autres. Nous avons donc un aéropage d'intervenants tout à fait remarquable et je vais donc commencer par Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, ancien premier ministre de la Norvège, est venu ici à de nombreuses reprises, mais c'est la première fois qu'il est ici en qualité de secrétaire général de l'OTAN. Soyez le bienvenu. Une chose que nous avons évoquée dans la session précédente qui est très pertinente cette fois-ci est ce qu'on peut appeler les lignes très floues entre la guerre et la paix, comprendre clairement ce qu'est la guerre et la paix aujourd'hui. Vous y réfléchissez, c'est éminemment pertinent dans votre rôle actuellement. Que se passe-t-il actuellement et quel est ce terme guerre hybride que l'on voit apparaître de plus en plus? En fait, ce qui se passe, c'est précisément ce que vous avez dit, c'est-à-dire que avant, on avait le sentiment que c'était soit la paix et soit la guerre, mais de plus en plus de pays vivent dans un État qui est un entre-deux en quelque sorte et cette frontière un petit peu floue entre la guerre et la paix. On le voit lorsqu'il y a des conflits gelés dans de nombreuses régions du monde, lorsqu'il y a des guerres hybrides comme nous l'avons constaté par exemple en Ukraine avec un mélange de moyens militaires et non militaires d'agression, de la déception, de la dissimulation, des actions ouvertes et clandestines, également des attentats terroristes, un mélange à la fois de paix et de guerre, et notamment lorsqu'il s'agit de la cyberguerre, il est possible de mener la guerre en temps de paix. Donc ça crée quand même de nouveaux défis pour nous tous et surtout pour l'OTAN, parce que nous devons faire preuve d'agilité, nous devons être préparés pour réagir plus rapidement face à des environnements de sécurité de plus en plus complexes et difficiles. À l'est de l'Alliance, on voit une Russie qui s'affirme de plus en plus, qui utilise la guerre hybride en Ukraine, et au sud de l'Alliance, on voit des acteurs non étatiques, la tourmente, qui pose une menace également face à ces pays de l'Alliance. L'OTAN réagit. Il est bon de se retrouver avec le secrétaire à la Défense, Ashton Carter, puisque les États-Unis sont en chef de file et il est bon d'avoir un secrétaire de la Défense qui est vraiment axé sur le lien transatlantique que constitue, que représente l'OTAN. Donc notre défi, c'est véritablement de réagir face à un environnement de sécurité plus dangereux et plus fragile. Ashraf Ghani, le président de l'Afghanistan, un ancien ami du Forum et une personne qui occupe une des fonctions les plus compliquées au monde, mais qui garde un tempérament optimiste. Vous êtes vraiment au milieu de ce dont nous parlons et l'Afghanistan, malheureusement pour sa population, est présente dans ce carrefour entre dans la fragilité et le combat. Que pouvez-vous nous dire s'agissant des perspectives de sécurité pour l'avenir? Bien, merci. Tout d'abord, il faut bien comprendre que nous faisons face à des défis à moyen terme, pas des défis à court terme, parce que si le défi n'est pas défini avec le bon horizon temporel, on ne peut pas mettre en place les stratégies pour surmonter cela. Et deuxièmement, le terrorisme qui est moralement répréhensible est devenu un système et nourrit la coopération. Bien sûr, c'est une pathologie tout à fait distinctive qui est orientée vers des sites précis, les attentats Paris, Istanbul. Quel est l'objet? C'est de nous empêcher de voyager librement, de nous rendre méfiants de nos voisins, de mettre en question le lien entre l'État et le citoyen, où c'est l'État qui protège ses citoyens. Et sa morphologie fait qu'il évolue très rapidement et ses techniques sont transférables dans cet environnement. Quel est l'autre aspect de la problématique? C'est que l'État est faible. Nous avons un grand privilège et je remercie le secrétaire général et le secrétaire Carter parce que le niveau international de compréhension est remarquable. Je voudrais rendre hommage à tous les hommes et femmes des 40 pays, notamment les États-Unis qui ont payé le tribut ultime. Mais la dimension régionale fait défaut, à moins que tous les États de la région comprennent que c'est une menace commune et nous faut les règles, nous devons coopérer les uns les autres, nous n'y arriverons pas. Ce qui n'est pas permis, c'est que des États se comportent comme des États, des acteurs non étatiques ou les parraines, les aides. Nous sommes un peuple résilient. Nous vaincrons. L'Afghanistan sera le cimetière de Daesh et tous les autres. La vengeance est la plus douce lorsqu'elle intervient 100 ans après. Bien, merci. Avant d'avancer, quelle est la perspective pour obtenir cet alignement régional pour traiter des questions qui sont foncièrement transfrontières, qui peuvent être traitées que lorsqu'il y a une coopération entre pays? Alors, la première question, c'est au niveau mondial, les nouvelles sont bonnes. 40 pays sous la direction tout à fait capable du secrétaire général, du secrétaire Carter ont renouvelé leur engagement en Afghanistan. L'incertitude est un ennemi. L'année dernière, une partie de notre problème était qu'il y avait de l'incertitude. Il y avait un horizon annuel. Une fois qu'on a allongé l'horizon temporel et on a cette résilience, là, les stratégies peuvent être plus ciblées. Deuxièmement, il y a la différenciation. Il faut distinguer chacun des éléments, chacun des vecteurs de l'insécurité et pouvoir les traiter les uns après les autres. Troisièmement, il est absolument primordial de mettre l'accent sur la population. On ne peut pas avoir de la coopération, de la corruption, on ne peut pas avoir de la mauvaise gestion, on ne peut pas négliger les pauvres, les exclus. Tout ce qui tend à perpétuer la mauvaise gouvernance, les systèmes véreux, là, exacerbe la pauvreté. Là, les marchés ne sont pas présents. Là, plus grande stratégie dans le rôle antiterroriste, c'est le marché. Notre plus grande faiblesse sont les faibles instituts de marché. Ça ne peut pas être imposé d'en haut. Il faut qu'il y ait des institutions qui fonctionnent. Donc, mon message au secteur privé, vous pouvez être de grands partenaires dans cet effort pour créer de la stabilité et de créer de la prospérité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on va peut-être on va rester en Asie, puis on va passer vers le sud-est de l'Asie. En Singapour, ministre adjoint Tharman. Alors, bon, par rapport à Afghanistan, Singapour est vu comme un des pays les plus stables de la région, mais vous n'êtes pas exempt de ces défis dont on vient de parler, même à Singapour.
En fait, Singapour est la nation où règne la plus grande diversité religieuse au monde. Nous avons toutes les grandes religions. La plus grande religion ne concerne qu'un tiers de la population. Nous avons dans nos 720 kilomètres carrés toutes les religions, y compris celles qui, autre part, se font la guerre. Nous avons la multireligion, nous avons la multiéconomie, nous avons toujours le multiple qui est partie de notre identité. Et depuis que nous sommes un pays, d'ailleurs, si nous n'avions pas eu cela, nous n'aurions pas survécu, c'est simple. Mais nous ne sommes pas du tout à l'abri d'accidents. Et nous devons donc absolument préserver cet esprit de tolérance, mais plus encore l'esprit de respect. L'esprit de respect dans la vie quotidienne les uns envers les autres. Et en fait, nous ne pouvons pas être naïfs, nous n'avons pas le droit de le faire, car même avec une vaste majorité de musulmans qui vit dans notre région, non pas seulement à Singapour, mais partout dans notre continent, qui trouve que le terrorisme est à repousser absolument, que c'est quelque chose d'horrible. Même avec cela, nous savons que nous devrons faire face au terrorisme pendant très longtemps encore comme menace. Parce que 0,01% de 230 millions de personnes dans notre région, c'est 23 000 personnes. Et nous savons déjà ce que peuvent faire 23 personnes. L'Asie du Sud, 350 millions. Je ne prends que les musulmans, je ne parle pas des autres religions. Là, c'est 35 000 personnes, 0,01%. Donc la menace va continuer à être là, même si la très vaste majorité est totalement contre le terrorisme. Et puis, il faut accepter le fait que ceux qui ont été convertis aux causes terroristes viennent des pays les plus industrialisés, les plus avancés, des démocraties occidentaux en partie, occidentales. Nous sommes maintenant en train de payer le prix de décennies de ségrégation et d'exclusion. Les règles peuvent être changées, mais la culture ne peut pas être changée rapidement. Et cela veut dire que nous allons devoir considérer ceci à long terme, c'est-à-dire construire la résilience, construire des structures de défense, pas seulement sur le plan militaire. L'État a besoin de pouvoirs très forts et très grands de surveillance et de règles très claires contre certains discours. Tout cela pour préserver les libertés au sens large de nos sociétés. Nous avons besoin de compromis avec le soutien des autorités judiciaires pour préserver la liberté de ceux qui veulent vivre dans des sociétés ouvertes et libérales. Et puis nous devons trouver le moyen d'intégrer les gens depuis le moment où ils sont enfants, jusqu'au moment où ils travaillent, où ils vivent chez eux. Il faut que tous puissent partager l'espoir dans l'avenir. Et cela est central pour notre stratégie. Nous allons vivre ainsi. Les voisinages mixtes, c'est quelque chose de très important. Un lieu de travail où vous n'avez pas d'interaction interne, externe, c'est dramatique. Et parfois, il y a encore des problèmes. Et ce n'est pas parce qu'il y a seulement du côté des nouveaux travailleurs et des anciens travailleurs. Non, il y a les jeunes immigrants, il y a les femmes aussi. Si vous êtes jeune, immigrant et femme, vous n'avez aucune chance. Donc, le marché du travail interne, externe, lorsqu'il a des problèmes, est complètement faux. Il faut régler cela. Il faut ouvrir le marché du travail. Il faut ouvrir les postes du travail. Il faut l'éducation pour tout le monde et que les enfants soient assis dans la même salle de classe. Merci, Monsieur le vice-premier ministre. Monsieur le secrétaire Carter, si nous revenons au phénomène de la guerre hybride, comment la guerre a-t-elle changé au cours de ces quelques dernières années? Il y a maintenant un phénomène très différent de ce que nous lisions autrefois concernant la guerre. Oui, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues et ce qu'ils ont dit. À une autre époque, dans le passé, des personnes à mon poste ou au poste de M. Stoltenberg étaient engagées dans la prévention des guerres. Et nous sommes toujours face à des guerres. Nous devons toujours faire ce travail. Mais, comme nous l'avons dit ici déjà, je ne crois pas que cela va cesser. La société devient de plus en plus complexe et de plus en plus vulnérable. et la puissance destructrice, si elle tombe entre les mains de tout petits groupes d'humanité, le problème du petit nombre contre la grande majorité va être maintenant le problème numéro un qui va rester parmi nous pendant très longtemps. Et en tant que ministre de la Défense, je peux vous dire que cela va être ma préoccupation de mes successeurs et le travail que nous aurons pour garantir la sécurité des populations. Et en fait, il faut ici considérer deux aspects. D'abord, le terrorisme où des acteurs non étatiques sont en train d'agir. Mais malheureusement, il y a aussi des États qui utilisent ce type d'instrument et ce type de vulnérabilité à des fins plus traditionnelles. Et cela est tout à fait vrai pour les petits hommes verts en Ukraine, ou cela est tout à fait vrai pour certains acteurs en Chine qui volent la propriété intellectuelle que l'on n'arrête pas. C'est vrai aussi où le gouvernement iranien soutient le Hezbollah. Voilà ce que j'appelle la guerre hybride. C'est cela. Les terrorismes, les acteurs non étatiques, la guerre hybride, il faut que nous nous consacrions à ne plus être vulnérables à tout cela. Maintenant, quand il s'agit des acteurs étatiques, des États, là, nous avons à disposition des outils plus traditionnels. Notre alliance, l'OTAN, ne sera pas la même demain qu'elle a été depuis pendant la guerre froide, naturellement. Nous allons évoluer. Mais cela fait partie de nos responsabilités depuis longtemps et encore pendant longtemps. C'est ce que nous devons à nos populations. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous pouvons le faire. Mais c'est un travail qui diffère beaucoup de celui qu'avait mon prédécesseur ou qu'avaient de nombreux prédécesseurs. Merci, Monsieur le Secrétaire. Il y a une tendance commune dans tout ce que nous venons d'entendre et qui est la puissance destructrice d'un tout petit nombre de personnes. Et lorsque vous avez parlé tout à l'heure avec le professeur Schwab, vous avez parlé de la technologie qui est un facteur important. Nous avons dit cela très exactement d'ailleurs. C'est que la technologie rend possible d'infliger un dommage terrible sans avoir besoin d'une armée ou d'une organisation sophistiquée. Autrefois, quand vous aviez l'armée la plus puissante, vous étiez le plus puissant et vous alliez gagner la guerre. C'est la tactique qui importait, d'autre part aussi. Et puis, voilà ce qui est important dans le rôle de l'État par rapport aux autres. L'autre point, c'est exactement ce qu'a dit le président d'Afghanistan. Les États reprennent des comportements d'acteurs non étatiques et en même temps, les acteurs non étatiques se comportent comme des États. L'État islamique ou Daesh, par exemple, en est un exemple. Donc, si vous avez là un tableau où considérer la défense avec des moyens inhérents à la défense n'est plus possible, finalement. Qu'est-ce que cela veut dire pour une alliance telle que la vôtre, qui est une alliance militaire et politique? Eh bien, cela signifie que nous devons nous adapter, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous le faisons d'ailleurs depuis un certain temps déjà. Par exemple, nous devons améliorer le renseignement. Nous devons améliorer notre prise de conscience de la situation, notre surveillance. Nous devons être en mesure de définir très exactement à quel moment nous sommes attaqués. Parce que autrefois, c'était clair. Disons, quand on savait quand on était attaqué. Il y avait des chars qui arrivaient de l'Union soviétique en Europe de l'Ouest et on savait que c'était une attaque. Maintenant, nous avons des cyberattaques, nous avons de la guerre hybride, nous avons des petits hommes verts et donc être conscient d'une attaque nécessite davantage de subtilité et il y a beaucoup moins de temps également qui est à notre disposition pour réagir. Donc cette ligne qui commence à être floue entre la guerre et la paix nécessite donc que nous soyons toujours prêts, que nous ayons des forces spéciales capables d'opérer immédiatement et que nous ayons un meilleur système de renseignement. C'est une partie de la réponse, en tout cas. L'autre partie de la réponse, c'est aussi qu'il faut que nous soyons prêts et en mesure de déployer des forces de combat et des opérations militaires comme nous l'avons fait en Afghanistan, dans les Balkans et dans d'autres parties du monde. Mais en plus de cette capacité, à l'avenir, nous allons devoir nous concentrer sur la manière de construire sur le plan local des capacités, c'est-à-dire que les pays affectés puissent eux-mêmes avoir la capacité de se défendre. Et c'est exactement ce que nous faisons en Afghanistan actuellement. En effet, l'OTAN a mis fin à sa mission de combat. Maintenant, nous avons 12 000 soldats en Afghanistan qui sont des conseillers, des formateurs et des soutiens pour les Afghans. Car à long terme, il faut que les Afghans puissent s'occuper eux-mêmes de leur sécurité. Nous les soutenons, mais ce sont eux qui sont en première ligne. Et maintenant, depuis un an, les Afghans ont pris la responsabilité de leur propre sécurité entre leurs mains. Nous allons maintenant commencer la formation de soldats irakiens. Nous allons soutenir la Jordanie, nous allons également soutenir la Tunisie pour projeter la stabilité, non pas en déployant nos forces, mais en formant les forces locales dans les pays de la région pour qu'ils puissent se défendre. Donc pour nous, c'est une vraie inspiration de voir le président d'Afghanistan qui s'efforce à chaque moment de faire de l'Afghanistan un lieu où il fera bon vivre bientôt. Monsieur le secrétaire général Stoltenberg a parlé des capacités des États, et cela est votre thème principal bien avant votre accession à la présidence, lorsque vous étiez encore universitaire. Donc, Monsieur le Président, comment est-ce que les États peuvent vraiment assurer non seulement une sécurité, mais aussi une cohésion sociale qui est à la base de tant de problèmes? Et je ne parle pas uniquement de l'Afghanistan. Bon, la première chose, c'est qu'il faut que le citoyen soit au centre et en première ligne. Quels sont les besoins des citoyens? Et là, je parle des hommes et des femmes. En effet, aussi longtemps que nous aurons exclu les femmes, il n'y aura aucune stabilité. Il est impératif de savoir que si nous voulons la paix, et nous devons avoir la paix, elle ne peut pas se faire en excluant nos femmes. Deuxièmement, il faut que l'efficacité règne. Singapour, voilà un exemple remarquable d'efficacité. Mais la plupart des institutions de l'État sont inefficaces, et ça, c'est inacceptable. Les organisations terroristes, pourquoi ne pouvons-nous pas faire des institutions de l'État des institutions où l'on apprend? Nous sommes beaucoup trop longs. Nous travaillons à l'envers. Nous ne réagissons pas, nous ne nous adaptons pas. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est analyser nos faiblesses par rapport à l'ennemi auquel nous sommes confrontés. Nous devons maîtriser la volonté politique. La volonté politique, ce n'est pas une notion abstraite, c'est un ensemble de mesures concrètes qu'il faut prendre. Et il faut choisir parmi des options difficiles. Oui, ce ne sont pas des perspectives roses. Il s'agit de faire avancer le processus. Il faut générer un élan, et un élan qui continuera. La coopération régionale, ensuite, est absolument obligatoire. Nous sommes très heureux d'avoir un voisin comme le Turkménistan. Le Turkménistan qui parie sur notre avenir, et il met des milliards pour construire un pipeline qui va traverser l'Afghanistan. Voilà le type de situation qui fait une différence inouïe. Et puis, il faut apprendre. L'Azerbaïdjan et le Turkménistan sont deux exemples qui ont montré comment des profondeurs de la misère qu'avait laissé l'effondrement de l'Union soviétique, on peut construire la voie vers la stabilité et la prospérité. Il y a là une grande clarté qui permet d'apprendre à partir d'exemples réels, et là encore, il faut engager les citoyens dans un dialogue inclusif. Moi, je le fais continuellement dans toutes les provinces d'Afghanistan. J'organise des réunions. Et dans une seule réunion, dans une province, ce que j'apprends, c'est plus que dans des centaines de réunions à Kaboul. Donc il faut que le gouvernement aille vers le public et il faut que nous prenions des risques. Si nous nous cachons derrière des murs, les gens vont dire « Bon, c'est très bien, mais ils sont loin de nous, ils ne comprennent pas nos problèmes. » On ne peut pas construire des forteresses autour de notre pays, de nos pays. Et de la même façon, on ne peut pas laisser le gouvernement se retrancher derrière des murailles. La capacité, ce n'est pas une abstraction non plus. Beaucoup de programmes de renforcement de capacité ont été mal conçus, car ils ne se concentrent pas sur ce qui existe, mais bien plutôt sur une analyse abstraite de ce qui n'existe pas. Donc si nous nous mobilisons, et si, au lieu d'avoir des plans qui ont été générés pour la Norvège, nous avons des plans qui sont là pour aider l'Afghanistan ou le Kenya, eh bien tout ira beaucoup mieux. Singapour montre un excellent exemple historique où une autorité de logement a été créée, où institution après constitution a été créée et où les choses fonctionnent. Merci beaucoup et je voudrais revenir vers le vice-premier ministre, mais je voudrais d'abord passer de ce thème de la fragilité et de la faiblesse de l'État à l'opposé de la gamme. Certaines concurrences se déroulent à Singapour, peut-être, mais surtout dans le voisinage d'Asie du Sud et du Sud-Est, où nous voyons une Chine qui monte et où nous voyons d'autres puissances qui essayent de contrebalancer la montée de la Chine. Et certains disent que c'est une évolution plus grave que celle dont nous avons déjà parlé. Si cette évolution va mal, alors comment essayer de faire en sorte qu'elle n'aille pas mal? Qu'en pensez-vous? Pour reprendre là où vous êtes arrêté, il y a beaucoup moins de probabilités de conflits en Asie du Sud-Est ou en Asie en général. Mais si cela effectivement avait lieu, les conséquences seraient énormes. Alors que le terrorisme, c'est une vraie probabilité qui aura aussi d'énormes conséquences pour la cohésion sociale pendant longtemps. L'Asie est dans un nouvel équilibre des pouvoirs, petit à petit, depuis une ou deux décennies, parce que l'économie chinoise est maintenant beaucoup plus grande. En fait, c'est le partenaire dominant sur le plan du commerce pour tout pays d'Asie. Avant, c'était les États-Unis, maintenant, c'est la Chine. Et cette évolution dans l'équilibre des pouvoirs entre la Chine et les États-Unis en particulier, jusqu'à aujourd'hui, se déroule de façon pacifique. Donc ce rééquilibrage, parfois, bien sûr, a été un peu malaisé, parce que pour le moment, il n'y a pas encore de confiance entre les États-Unis et la Chine. Or, la confiance, elle se construit lentement. Elle ne vient pas parce que nous construisons des accords. Elle vient par des dialogues, par la manière dont nous savons comment réagir les uns aux autres, par le fait que nous savons profondément que nous croyons dans la coexistence pacifique. Alors il y a des moments, certes, et c'est inévitable, où des déploiements de puissances unilatéraux ont lieu. Et à chaque fois que cela se produit, il faut mettre cet événement en lumière et il faut insister pour que ce type d'événement soit porté devant une cour ou un arbitrage international. C'est pourquoi l'ASEAN existe. Nos intérêts sont extrêmement profondément liés à cet équilibrage pacifique un équilibre entre les pouvoirs qui préserve la paix dans la région. Et notre rôle n'est pas d'être neutre, mais d'être neutre activement, donc pas passivement, mais activement. Notre rôle est de mettre en lumière les sortes d'événements unilatéraux qui mettent en danger l'équilibre, et nous faisons en sorte que tout cela soit porté devant une instance internationale.
Monsieur le secrétaire à la Défense, c'est un ancien concept militaire que d'établir la réalité sur le terrain. En Asie, certains acteurs passent au niveau supérieur qu'est de bâtir le terrain, comme construire sur des îles et ainsi de suite. Alors, rapport de force ou une nouvelle confrontation? Alors, je voudrais répondre dans une minute, je voudrais juste réagir sur ce que viennent de dire les deux intervenants précédents, si vous le permettez. D'abord, sur le concept qui consiste à aider les autres, c'est tout à fait essentiel. C'est un outil essentiel, c'est d'aider les autres États afin qu'ils puissent se protéger. C'est ce que nous avons fait en substance avec les forces de sécurité afghanes. Et le président afghan a parlé effectivement de la sécurité et de l'agilité dans les institutions publiques. Il faut être efficace, mais que nous soyons perçus comme étant efficaces. Alors j'en viens maintenant à l'Asie et la mer de Chine méridionale. Alors tout ce qui a été dit est tout à fait juste. La montée de la Chine est une donne majeure. C'est une donne dont les États-Unis se félicitent à tout point de vue. Je ne suis pas de ceux que le conflit entre les États-Unis et la Chine est inévitable et certainement pas souhaitable et même très peu probable. Mais bon, ces choses ne sont pas automatiques. Il faut y œuvrer ardemment. Alors la montée de la Chine est, soit dit en passant, pas la seule montée à l'œuvre en Asie. L'Inde monte également. Le Japon, si vous n'avez pas constaté, est une puissance militaire montante. Il y en a d'autres, le Vietnam, les Philippines, et ainsi de suite. Alors, notre point de vue en la matière, le point de vue des États-Unis, est le même que nous avons eu de longue date, c'est-à-dire que nous nous en félicitons. Nous avons essayé de créer un environnement et nous avons été quand même joué un rôle charnière pendant 7 décennies, tout un chacun pouvait suivre sa propre destinée vers la prospérité, y compris la Chine. Et nous n'avons jamais cherché à faire obstruction à la montée économique de la Chine en sortant des millions de gens de la pauvreté. Nous nous en félicitons, y compris tous les autres États, mais en même temps, force et de constater qu'on ne veut pas mettre à mal un bon dispositif de paix et de sécurité que nous souhaitons défendre. Nous ne séparons pas, nous ne semons pas la division, nous ne demandons pas aux gens de s'exprimer pour ou contre un camp. Nous demandons, bon, alors la Chine prend des mesures qui tentent à pousser les gens vers un résultat que nous ne voulons pas, c'est-à-dire que les gens viennent vers nous et ensuite se sentent exclus. Alors, vous l'avez évoqué, je dois dire que la Chine n'est pas le seul pays qui pousse des revendications que nous n'acceptons pas. Enfin, nous sommes opposés à tout cela et de notre côté, nous avons dit à tout le monde, pas simplement la Chine, mais tous ceux qui s'y lient, doivent arrêter ces actions. Et deuxièmement, en ce qui nous concerne, nous allons continuer à faire ce que nous avons toujours fait. Nous allons voler, nous allons naviguer, nous allons opérer partout où le droit international le permet en mer de Chine orientale. Peu de choses que font les autres. La marine des États-Unis continuera à faire ce qu'elle a toujours fait. Nous réagissons, nous continuerons à réagir. Nous ferons des investissements afin de maintenir nos postures militaires malgré ces évolutions, ces développements. Et nous aidons d'autres pays qui s'adressent à nous pour une aide et assistance dans la sécurité maritime. Nos alliances se raffermissent avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et d'autres alliés de longue date. Je me suis rendu en Inde, au Vietnam récemment. Bien sûr, nous souhaitons avoir de bonnes relations avec eux. Nous ne demandons pas aux gens de prendre parti. Nous respectons le principe de neutralité, mais bien sûr Singapour, qui a quand même un poids moral très important dans la région, et leur position est la bonne, c'est-à-dire que nous souhaitons que les gens continuent à agir. Nous ne voulons pas prendre parti pour un camp ou un autre. C'est pas dans notre nature. Bien sûr, il faut reconnaître un comportement d'auto-isolement. Lorsque la Chine s'y livre, c'est précisément ce qui va se passer. Mais de notre côté, et vous verrez cela reflété dans les investissements les plus importants, la plus grande entreprise au monde, comme l'a dit Klaus, c'est la mienne, c'est-à-dire et son budget. Je suis en train d'actuellement programmer le budget de la défense, vise précisément à faire face à ces défis. Donc nous allons réagir, mais ce n'est pas notre voie privilégiée, c'est-à-dire que de voir cette action d'auto-isolement par la Chine, il faut que ça passe par le dialogue, et nous espérons aboutir à un meilleur résultat. Et comme je l'ai indiqué, je ne suis pas fataliste face à l'évolution des choses, mais ils font œuvrer pour les résultats. J'ai le plaisir de pouvoir travailler avec tous mes collègues, y compris la Chine, pour une solution gagnante pour tous. C'est ce que nous avons toujours cherché à tout le monde progresse. Telle est notre philosophie. Monsieur le secrétaire général Stoltenberg, lorsque vous, en qualité de secrétaire général de l'OTAN, ou lorsque vos collègues premiers ministres, ministres de la Défense ou ministres des Affaires étrangères évolue la voie à suivre, comment juger correctement entre les enjeux? Il y a des défis qui sont là au quotidien. Le terrorisme nous rappelle son existence chaque semaine qui passe. Ensuite, il y a ces menaces potentielles qui surviennent pas, qu'on a tendance à oublier, qui ne surviennent pas, et c'est seulement lorsque ces menaces surviennent que l'on s'y réfère. Comment l'Alliance peut-elle penser l'impensable tout en gérant les crises au quotidien? Eh bien, je pense que l'OTAN a quand même très bien réussi à faire cela depuis près de 6 décennies, puisque nous nous sommes concentrés sur la gestion des crises. Donc, nous avons été dans les Balkans, dans l'Afghanistan, à gérer des crises immédiates, ici et maintenant. Mais en même temps, il y a toujours une perspective à long terme, c'est-à-dire de pouvoir nous adapter à mesure que l'environnement sécuritaire évolue, également de traiter l'impensable, telle la guerre nucléaire. La dissuasion, être fort, fait partie de ce que fait l'OTAN, puisque nous pensons que si nous restons forts, nous pouvons ainsi dissuader et ainsi prévenir la guerre. La raison pour laquelle nous voulons être forts, c'est pas pour livrer la guerre, c'est pour prévenir la guerre en étant fort. Et donc tout adversaire comprendra que toute attaque contre un allié de l'OTAN est vouée à l'échec. C'est donc la raison pour laquelle nous nous adaptons, et j'ai déjà évoqué certains éléments d'adaptation, mais je voudrais vous rappeler que nous avons triplé la taille de la force de réaction de l'OTAN. Nous avons mis en place une nouvelle force de préparation de l'OTAN, une sorte de fer de lance qui peut réagir très rapidement. Nous avons accru notre présence dans la partie orientale face à une Russie qui s'affirme de plus en plus, et nous mettons à présent l'accent sur les nouvelles menaces dans le monde du cyber également, toutes sortes de menaces hybrides. Donc, en fait, je suis secrétaire général depuis plus d'un an maintenant, et je suis impressionné par l'Alliance, sa capacité à s'adapter, sa capacité précisément à réagir face à un environnement sécuritaire qui change. C'est pourquoi c'est une alliance couronnée de succès. Au cœur de cela, il y a l'unité, 28 nations démocratiques. Nous avons des points de vue différents, de nombreux débats, mais par consensus, nous pouvons parvenir à un accord avec des conclusions très fortes lorsqu'elles sont dégagées de façon unie. Bon, quelque chose qui doit être dit, bien sûr, ça suppose un très grand secrétaire général. Il est tout à fait remarquable et nous bénéficions tous de son impulsion. Bien, malheureusement, je pense que le temps est écoulé. Si vous avez une dernière remarque que vous brûlez d'envie de formuler, je vous laisse la parole. Ça ne semble pas être le cas. Je vous tends la perche. En fait, je voulais juste vous dire que vous constaterez dans le programme du Forum économique mondial et les activités que nous avons placé cette question bien à une place prépondérante du programme par rapport à quelques années. Non seulement pensons-nous que c'est intéressant, mais toutes ces questions sont clairement liées aux évolutions de société, au développement économique, et on ne peut donc pas dire quoi que ce soit de significatif quant à l'évolution du monde sans également appréhender les principales menaces sécuritaires. Merci à tous les quatre d'avoir donné cet éclairage, et ceci conclut la session. Oui, Président, je voudrais juste saluer. Effectivement, les partenariats sont basés sur une capacité d'écoute, et ici, deux partenaires remarquables avec des dialogues extrêmement féconds où nous mettons l'accent à la fois sur la définition du problème et la solution au problème. Et sous leur impulsion, nous avons pu forger une voie à suivre et de constater que nous ne sommes pas bloqués dans le passé, mais que nous avons une trajectoire vers l'avenir. Applaudissements à eux. Merci à tous.
Session closed.
On se lève.
Thank you for attending this session. We value your feedback. Please share your comments on the session via our top link session page on the app. Thank you once again.